Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique en France est maintenant sur Radio France Internationale et c'est avec vous, Luc Rouban. Bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de recherche au CNRS, chercheur au Centre de recherche politique de Sciences Po, le CEVIPOF, et votre dernier livre, La vraie victoire du RN, aux presses de Sciences Po. Alors, depuis que l'exécutif a actionné l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter ce texte sans vote, la colère ne retombe pas chez les opposants à la réforme. Tout ce qui se passe en ce moment part donc de cette intervention faite l'autre jour par la Première ministre à l'Assemblée nationale.
La parole est à Madame la Première ministre. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement.
Et jusqu'au dernier moment, le gouvernement a cru que les Républicains voteraient en faveur du texte, mais c'était trop juste. Et plutôt que de prendre le risque de voir le vote être négatif, à faire l'impasse et passer en force, ce gouvernement Bruno Le Maire s'en prend non pas à LR, mais à la gauche.
Ce qui a empêché au départ le débat et le vote sur l'article 7, c'est la NUPES qui n'a cessé de multiplier l'obstruction. Elle nous reproche aujourd'hui d'utiliser des moyens légaux et constitutionnels. Elle n'a cessé d'utiliser les moyens parlementaires pour bloquer le débat et empêcher le vote sur l'article 7. Mais légaux et institutionnels, mais qu'ils ne nous fassent pas le reproche d'être autoritaires lorsqu'ils l'ont été pendant tous les débats à l'Assemblée nationale pour bloquer le vote sur l'article 7. Deuxième réalité, il y a eu un vote au Sénat, un vote majoritaire pour cette réforme des retraites. Troisième réalité, il y a eu une commission mixte paritaire où nous sommes, nous, la majorité, relative en situation de minorité, nous avons obtenu 10 voix sur 14. Enfin, quatrième réalité, évidemment, on ne peut pas être tenu pour responsable du fait que certains députés, les Républicains, qui ont été élus sur la proposition de partir à la retraite à 65 ans, tout d'un coup, dans une incohérence totale, on dit finalement on ne vote pas.
Et dans le jeu du à qui la faute, Philippe Martinez de la CGT qui s'en prend au président de la République, c'était tout à l'heure sur BFM TV.
Je ne comprends pas que le gouvernement et surtout le président de la République ne prennent pas au sérieux nos alertes pour dire le mécontentement il est profond, dans le refus de cette loi il est ultra majoritaire et on a un président de la République parce que maintenant c'est lui qui continue à avancer avec... Alors il change souvent d'argument parce que depuis deux mois maintenant c'est un problème économique, on risque la crise financière. Mais rappelez-vous qu'au début c'était une réforme de justice sociale. Vous voyez les gens ils comprennent plus rien. Enfin je pense qu'ils ont bien compris que cette réforme elle est injuste, elle est brutale, elle est autoritaire. On a joué notre rôle d'alerte.
Luc Rouban, le 49-3, c'est constitutionnel, c'est légal, mais d'un point de vue démocratique, est-ce irréprochable ?
Et certainement pas, parce que c'est vrai que c'est parfaitement légal, c'est parfaitement constitutionnel, mais depuis le début des débats qui entourent ce projet de réforme des retraites, on voit bien que le gouvernement a tout fait pour réduire à minima les débats au Parlement. Alors déjà, c'est l'utilisation de l'article 47 qui entraîne une lecture assez rapide, avec des délais très rapides du projet de loi. Ensuite, c'est le vote bloqué au Sénat. Ensuite, maintenant, c'est le 49-3. Donc en fait, le gouvernement a une lecture extrêmement présidentielle de la Constitution, alors qu'on pouvait très bien avoir aussi bien une lecture peut-être en termes de démocratie directe et de référendum, ou très bien aussi une lecture en termes de débat parlementaire, mais un débat parlementaire tronqué qui n'a pas eu lieu.
Le président, justement, finalement, c'est la première vraie épreuve législative pour lui depuis qu'il a été élu la première fois, c'était en 2017. Il doit désormais apprendre à composer alors que LFI parle désormais de sa minorité présidentielle.
Ah oui, mais c'est certain que Emmanuel Macron n'a qu'une majorité relative, mais c'est vrai aussi qu'il a été incapable de mettre en place une coalition de gouvernement. C'est ce qui se passe dans la plupart des démocraties occidentales et européennes notamment. Dans ce cas-là, vous avez des gouvernements minoritaires, mais ils mettent en place des coalitions. Or là, Emmanuel Macron n'a pas été en mesure de créer, je dirais, une alliance solide avec notamment les Républicains. On a même vu une partie des Républicains commencer à piquer du nez ou à refuser un certain nombre de dispositions qu'ils estimaient injustes dans le projet de loi. Donc effectivement, il est obligé maintenant de négocier au cas par cas. Et c'est-à-dire que en réalité, on est arrivé pratiquement à une forme de torsion de bras en disant aux Républicains, bah, de toute façon, il faut nous soutenir, hein, parce que si jamais il y a une motion de censure, eh bien, il y aura dissolution de l'Assemblée nationale. Et comme on sait très bien que beaucoup de députés LR sont en difficulté dans leur circonscription, ils risqueraient de ne pas être élus.
On va y venir. L'adoption de la loi sur cette réforme des retraites sans vote des députés en seconde lecture a provoqué d'abord des réactions politiques et syndicales, mais aussi réactions de la rue avec des manifestations spontanées, notamment devant l'Assemblée nationale, place de la Concorde. Il y a eu des accrochages avec les forces de l'ordre, des poubelles brûlées. Et puis la nuit dernière, la permanence d'Éric Ciotti à Nice a été caillassée pour faire pression sur lui, affirme le président des Républicains. La réaction de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, sur France 3 à la mi-journée.
J'ai envoyé un message ce matin à Éric Ciotti. Il est inacceptable de s'en prendre à des parlementaires, à des élus, inacceptable de couper l'électricité au président Bruno Retailleau, inacceptable d'avoir de la violence verbale, de manière plus générale. Non seulement dans un état de droit, force doit rester au droit, jamais à la violence, qui doit être condamnée de la manière la plus ferme, mais de manière plus générale. Notre débat politique gagnerait à reposer sur plus de sérénité.
D'autres permanences d'élus de la majorité ont été visées. Et puis ce que raconte Carl Olive, député Renaissance, le parti présidentiel, il était l'invité de la radio RMC ce matin et il a dû venir sous protection policière.
Et la seconde où le média l'a annoncé sur les réseaux sociaux, j'ai été à la fois insulté et menacé de pouvoir me cueillir à mon arrivée là-bas. La préfecture de police a en fait anticipé en prévoyant le cas échéant une intervention potentielle. En arrivée là, c'est quand même pitoyable, comme je dis, manifester dans ce pays, c'est un droit, mais détruire, insulter, menacer, c'est un délit et ça devient insupportable. On est en situation pré-insurrectionnelle.
Carl Olive au micro de Sylvie Noël de RFI. Maintenant, la prise de position de Jean-Luc Mélenchon, député de la France Insoumise, appartenant à la NUPES. Expression au grand jury RTL.
Monsieur Ciotti est fort mal placé pour se plaindre, vu que nous n'avons jamais entendu le son de sa voix, lorsque Mme Catherine Couturier, députée de la Creuse, a vu sa permanence attaquée 4 fois. Ce fut le cas également pour Mme Charlotte Leduc, ce fut le cas pour M. Prudhomme, et là, silence alors absolu. Évidemment qu'aucun d'entre nous ne peut approuver l'attaque d'une permanence parlementaire. Si vous ne voulez pas la violence, acceptez la démocratie. Si on continue comme ça, la crise va s'aggraver.
Luc Rouban, on voit que la contestation prend une nouvelle forme après des semaines et des semaines d'affrontements politiques et syndicaux. La contestation se radicalise.
Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on retrouve en réalité le fil rouge qui nous ramène aux manifestations des Gilets jaunes et dont on sait que la violence avait fini par payer d'une certaine manière. Donc certains manifestants se disent aujourd'hui, de toute façon le débat parlementaire est bloqué, le gouvernement veut passer en force, on a avec nous l'ensemble de l'opinion, les syndicats, enfin pas pour la violence évidemment, mais dans la contestation de cette réforme, donc il faut maintenant passer à autre chose. Et c'est vrai que cet appel à la radicalité est extrêmement inquiétant, parce qu'on voit réapparaître des manifestations spontanées, non encadrées par les syndicats, alors que jusqu'à présent, le mouvement de contestation avait été très pacifique et très bien organisé justement par les syndicats. Donc là, et vraiment, on voit bien le défaut de la démocratie sociale en France, et là, ça débouche à nouveau sur une véritable crise politique, avec une remise en cause personnelle des élus, et c'est là que les choses quand même vraiment commencent à se gâter sérieusement.
Les syndicats qui appellent à de nouvelles manifestations jeudi prochain, d'ici là et dès demain après-midi, eh bien, seront examinées les motions de censure. Le Rassemblement national de Marine Le Pen a déposé un texte en ce sens.
Nous allons déposer une motion de censure. Nous voterons l'ensemble des motions de censure déposées.
Les députés d'un groupe parlementaire indépendant centriste, l'IOT, ont déposé également une motion transpartisane co-signée par des élus de la NUPES. Le député de la Meuse, Bertrand Pancher, a échoué à convaincre des députés LR de la co-signer, cette motion, mais il les invite à la voter.
Le groupe l'IOT, Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire, va déposer une motion de censure avec 91 signataires de 5 groupes politiques d'opposition.
Alors pour faire tomber le gouvernement, une motion doit recueillir une majorité absolue, 287 voix, ce qui nécessiterait notamment qu'une trentaine de députés de droite, les Républicains, sur 61, votent cette motion du groupe Liotte. Sauf que Éric Ciotti, le président LR, a annoncé la couleur.
Le recours au 49-3 est un échec. Le gouvernement a gâché cette réforme qui, je le redis, pour moi est nécessaire. Nous venons de décider en réunion de groupe que nous ne voterions aucune motion de censure.
Jean-Luc Mélenchon ne croit pas Éric Ciotti, voici son explication.
Moi je pense que les Républicains vont voter la censure et qu'un grand nombre d'entre eux vont le faire. Pourquoi ? Parce qu'ils savent comme moi qu'il n'y aura pas de dissolution derrière et que par conséquent, le fait de voter la censure, c'est faire partir Mme Borne. L'édifice est à deux doigts de s'écrouler, ce sont les Républicains qui sont au pied du mur, parce que c'est eux qui vont faire la décision.
Luc Rouban du CEVIPOF. Mathématiquement, donc, ces motions de censure ne peuvent pas aboutir si les députés LR respectent la consigne de leur président.
Absolument. Donc, c'est vrai que mathématiquement, normalement, les motions de censure ne devraient pas passer. Celle du Rassemblement national ne réunira très vraisemblablement que les députés du Rassemblement national. Celle du groupe Liot, alors évidemment, va réunir et transpartisane, donc va réunir beaucoup plus de signatures, mais je ne pense pas qu'elle pourrait vraiment mettre en danger le gouvernement d'Elisabeth Borne. Cela étant, dans le fond, l'utilisation du 49-3, c'est quand même une bonne affaire pour les Républicains, et notamment pour Éric Ciotti, parce que ça permet de cacher leurs divisions internes, qui sont quand même profonde, parce qu'on a bien vu qu'il y avait une partie des députés LR qui soit ne voulaient pas voter le projet de loi, soit étaient plutôt dans une attitude d'abstention. Et puis du côté du Sénat, vous aviez aussi des états d'âme. Donc en fait, globalement, pour Éric Ciotti, c'est le moment de réunir ses troupes et d'assurer sa cohésion, parce que dans le fond, on sait très bien que ceux qui n'obéiraient pas à ses instructions risqueraient fort de ne pas recevoir d'investiture pour d'éventuelles futures législatives.
C'est peut-être la raison pour laquelle le président du RN, Jordan Bardella, indique que son parti ne présenterait pas de candidat dans les circonscriptions où les députés LR voteront la censure. Donc on est vraiment là dans des calculs politiques et le coup d'après.
Absolument. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire que l'ensemble de cette séquence politique donne quand même une image assez déplorable de la démocratie en France, où dans le fond, on débouche maintenant sur des questions vraiment de discussion politicienne. Il semble aussi qu'il y ait eu des négociations par derrière. Donc ça, c'est Aurore Berger qui le disait aujourd'hui sur France Inter, qui disait, ben voilà, il y a eu comme des négociations entre le gouvernement, enfin disons des demandes de certains députés LR au gouvernement pour en quelque sorte négocier leur accord. Donc tout ça, ça commence à ressembler très furieusement à la 4e République.
Justement, vous parlez d'Aurore Berger, la patronne des députés Renaissance. Elle a dit que les motions de censure seront demain un moment de clarté et qu'ensuite il faudra retisser le lien avec les Français. Il y aura fort à faire, hein.
Ah oui, ça va être très très difficile. Là, dans le dernier baromètre de la confiance politique du CEVIPOF, on montre quand même un écroulement des niveaux de confiance dans l'ensemble des institutions politiques. Alors, je dis bien les institutions politiques, je ne parle pas des services publics qui, eux, sont toujours crédités d'un fort niveau de confiance. Mais les institutions politiques en tant que telles, y compris au niveau local, ont vraiment baissé de plus de pratiquement de souvent 9 à 10 points. Et donc, si vous voulez, on a vraiment maintenant une crise de défiance qui devient très inquiétante parce qu'elle place la France au regard d'autres pays comme l'Allemagne, comme l'Italie qui était toujours considérée comme l'enfant malade de la démocratie en Europe. Hein. Eh bien, par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Italie, par rapport au Royaume-Uni, on est vraiment le pays maintenant le plus malade de sa démocratie, avec des niveaux moyens de Français d'enquêter qui vous disent « bah non, la démocratie fonctionne mal et on n'a plus confiance ». Et on n'a pas trop confiance non plus dans les syndicats. Il ne faut pas non plus penser que les syndicats ont fait le plein de confiance lors de cette session de contestation. On est à 38% de confiance, c'est-à-dire en fait 2 points de moins que l'année dernière. Donc en fait, vous voyez, il y a vraiment un affaiblissement des corps intermédiaires et des élus, des représentants. Et ça, c'est quand même vraiment très inquiétant.
Je parlais du coup d'après tout à l'heure. Ça pourrait être le référendum d'initiative populaire, le RIP, mais il faut d'abord que 185 parlementaires en fassent la demande. Vous y croyez ?
Non, pas du tout. Parce que si vous voulez, c'est assez complexe. Il faut que d'abord il y ait effectivement un certain nombre de parlementaires qui en fassent la demande. Ensuite, il faut que ça soit soutenu par 10% du corps électoral, c'est-à-dire 4,8 millions d'électeurs. Tout ça sous le contrôle du Conseil constitutionnel et en plus avec des limites très précises, à savoir qu'avec ce type de référendum, on ne peut pas annuler une loi qui a moins d'un an d'existence. Et en plus, il faut que la procédure dure au moins 9 mois pour que le ministère de l'Intérieur récupère les avis, enfin disons les soutiens des Français. Donc tout ça c'est très lourd, c'est très long et c'est un délai qui me paraît bien éloigné par rapport à l'urgence de la situation en France aujourd'hui.
Merci pour ces commentaires et analyses, Luc Rouban, directeur de recherche au CNRS. Je signale le titre d'un autre de vos livres, Les raisons de la défiance, aux presses de Sciences Po. C'était Dimanche Politique sur Radio France Internationale.